Vous êtes sur Radio Campus 106,6 et nous sommes en compagnie de Patrice Deparpe, directeur du musée Matisse, situé au Cateau Cambrésis. Alors monsieur Deparpe, bonjour. Nous sommes donc en 2019, 150 ans de naissance du peintre, mais lequel ?
Bien sûr, Henri Matisse, donc bonjour et meilleurs voeux, puisque c'est une nouvelle année. Matisse est né un 31 décembre, donc vous voyez, 1869. Donc en fait, cette année, on célèbre le 150e anniversaire de sa naissance et sa ville natale. Le musée qu'il a créé dans sa ville natale devait forcément s'investir dans un beau programme.
Alors, ce territoire de Matisse, autour de ce projet, qui reste encore une énigme, mais nous allons le dévoiler au fur et à mesure de l'entretien. Est-ce que l'on peut dire que ce projet permet de positionner la visibilité de la région de naissance de Matisse comme une source d'influence artistique ?
C'est toujours une des questions, même si elle a tendance aujourd'hui à se résorber, mais cette non-reconnaissance de la région natale de Matisse, en tout cas associer le Cateau Cambrésis et le Nord à Matisse, c'est pas une chose évidente. Il y a encore quelques années, on dit Matisse, et Matisse c'était forcément le Sud. Mais il n'y aurait pas eu de Matisse travaillant grand peintre dans le Sud s'il n'y avait pas eu un Matisse dans le Nord au départ, et parce que ce territoire, ça a été son terreau sur lequel il s'est construit. L'histoire de ce territoire, qui était une histoire essentiellement textile, l'a formé. Si Matisse est devenu un des plus grands peintres décoratifs, comme on disait alors, c'est parce que justement il a découvert, il a baigné dans le décoratif, dans le textile dès sa jeunesse. Donc ce territoire, il est intimement mêlé à Matisse. Donc ce qui faisait vivre ce territoire, cette industrie textile, la famille Matisse était implantée au Cateau depuis plus de 300 ans, et c'était une famille de tisserands, a véritablement contribué à former des artistes, parce qu'il y a bien sûr Matisse, mais il y a aussi Herbin, par exemple, qui est présent aussi dans le musée, mais dont la famille travaillait dans le textile, lui-même devait travailler dans le textile. Le textile, c'était à la fois un lieu où on pouvait trouver du décoratif, les motifs, de la couleur, de la matière, des formes, donc je dirais la matière première pour permettre à un artiste de travailler.
Alors, il est vrai que le travail de Matisse résulte d'un héritage de spécificités territoriales. On évoquait les tissus, les paysages, la lumière, les architectures. Et la question que je voudrais vous poser, c'est comment tous les différents candidats vont-ils s'en inspirer dans ce projet ?
Voilà, alors je veux dire, c'est une bonne question. En fait, nous, la question que nous nous sommes posée quand nous avons lancé ce projet, c'est est-ce que Matisse représente encore aujourd'hui quelque chose ? Pour tout vous dire, il y a un an, je discutais avec des élèves d'une école de Beaux-Arts qui venaient présenter leur travail ici à Lille sur la foire d'art contemporain. En discutant avec eux, ils me disaient « mais nous, on est pratiquement des cas d'espèce, on est les derniers à travailler la peinture ». Je me disais, mais ça y est, la peinture a disparu dans les écoles d'art. Donc ça, c'est la première question. Et je me disais, mais quelle influence... Et il y avait des connotations dans leur travail d'œuvre de Matisse. Donc je me disais, mais quelle influence un artiste comme Matisse peut-il avoir encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui ? Est-ce que son nom représente encore quelque chose ? Est-ce que, on sait que dans les années 60-70, il a véritablement été une source d'inspiration pour énormément d'artistes dans le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent encore se servir de Matisse. Donc à partir de là, on a essayé de voir avec les écoles d'art et dans la diversité des pratiques qu'elles proposent, que ce soit la sculpture, les nouvelles technologies, bien entendu, la peinture, la céramique, etc. Enfin, dans toutes les disciplines, s'il pouvait y avoir une correspondance dans ce travail. Alors, on va nous dire qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de nouvelles technologies pour Matisse, mais je pense que plus que dans les faits, dans l'esprit. Ce que Matisse a inventé, par exemple, avec les papiers découpés, était tellement révolutionnaire qu'on peut considérer qu'il était à la recherche de la novation. Et aujourd'hui, ce qui est novateur, ce sont ces nouvelles technologies. Et Matisse cherchait des nouveaux outils. Dans une même journée, Matisse allait pratiquer la peinture, la sculpture, le dessin, la gravure, pour s'essayer à des techniques différentes et pour que chaque technique enrichisse l'autre. Là, on a la chance aujourd'hui d'avoir des techniques qui nous permettent d'avoir dans un seul et petit appareil le son, l'image et plein d'autres choses, plein de possibilités. Donc, je pense que si Matisse avait eu l'occasion d'utiliser ces nouvelles technologies, il les aurait certainement non seulement utilisées, mais poussées à leurs limites.
Alors, comment ce projet va-t-il légitimer l'existence du musée Matisse sur son territoire ? Unique musée créé par l'artiste de son vivant, dans sa ville natale et pour ses concitoyens. Et comment tous ces candidats des différentes écoles vont-ils s'exprimer avec les technicités d'aujourd'hui, avec les moyens modernes? Comment vont-ils donc s'exprimer à travers donc ce projet? Est-ce que vous pourriez d'ailleurs nous dire un peu combien d'écoles du Hauts-de-France sont concernées par ce projet ?
Oui, alors le nombre exact, ça c'est la colle. Je pense qu'on était autour de 19, ou presque 19, 20 écoles. Donc c'était important parce que certaines se sont raccrochées au projet après. Donc ça a un peu augmenté. Donc ça prouve aussi tout l'intérêt. Juste avant de répondre à cette question, je reprends l'idée des papiers découpés, cette invention de Matisse, parce qu'il y a aussi cette dimension dans les papiers découpés que Matisse a toujours eu tout au long de sa vie. C'est de dépasser l'académisme. Finalement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Matisse a été refusé à l'école des Beaux-Arts. Et quand il fait sa donation au musée en 52, il a gardé avec lui le dessin qu'il a présenté à l'époque et donc sur lequel il a écrit. Ce dessin a fait l'objet d'un refus quand j'ai proposé à l'école d'entrée des Beaux-Arts en 1890. Vous voyez, ça l'a marqué. Mais il prouve aussi que parce qu'il s'est accroché, parce qu'il a combattu, il s'est battu pour sa liberté de créateur et son affirmation de devenir d'artiste, eh ben il a réussi à se passer de cette école-là, à son école à lui. Ça a été aussi l'école de la rue, ça a été l'école des ateliers à Paris, et ça a été plus un objectif qui était celui de garder les acquis des maîtres du passé, mais d'aller toujours plus loin. Donc c'est cette notion de dépassement qui est vraiment importante. Et c'est une notion aussi que nous, dans le musée, on conserve toujours, de même que celle de l'exigence, parce que c'est un peu un musée familial. C'est Matisse qui l'a créé lui-même, donc en offrant sa collection personnelle. C'est unique. Donc, au-delà d'une collection, c'est plus un état d'esprit. On rentre chez Matisse et on comprend l'exigence absolue de Matisse, ce parcours de vie. Cet homme du Nord qui avait l'habitude de dire qu'il se dépêchait, c'est-à-dire qu'il se donnait de la peine à l'ouvrage. Hein, ça, cette dimension du travail, elle est extrêmement présente. Et dans cet héritage de sa naissance dans le Nord, la notion de travail, de labeur, elle est essentielle, hein, toujours aller plus loin. Et donc le musée, lui, s'attache à ça et il a ce rôle que de préserver, au-delà de présenter les œuvres, de préserver aussi un certain esprit, qui est l'esprit de Matisse, cet esprit d'exigence, cet esprit de découverte, cet esprit d'ouverture. C'est quand même un monsieur qui, à 60 ans, s'en va au bout du monde et fait un voyage incroyable jusque Tahiti, en faisant de la plongée en 1930 et des choses comme ça, pour y découvrir finalement la matière qui va l'amener à faire les papiers découpés. Donc c'est cet esprit-là. On rentre chez Matisse et on essaye de montrer aussi comment ce territoire du Nord, du Cambrésis, a concouru à aider à sa formation.
Le musée Matisse a toujours des projets originaux, ambitieux. Mais là, aujourd'hui, on nomme un commissaire pour une exposition qui va avoir lieu dont on ne connaît pas les œuvres. Alors, cette carte blanche offerte à tous ces étudiants, c'est quelque chose de très remarquable. Comment va donc évoluer ce musée demain avec donc toute cette technologie ? Et est-ce qu'en définitive, à travers donc ce projet, on essaye déjà un peu de bâtir le musée du XXIe siècle.
Ah bah on est même carrément dedans, dans la mesure où on vient de refaire ce qui est obligatoire pour un musée de France, notre projet scientifique et culturel, et que nous nous sommes posés des questions. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde le paysage culturel, on voit cette succession de blockbusters d'expositions qui demandent des moyens énormes, qui demandent des investissements, etc. Et on se dit que nous, musées de province, on ne peut pas s'inscrire dans cette course-là. Ça demande des moyens, ne serait-ce que financiers, qui sont impossibles à suivre. Donc, et la richesse d'un musée, ce qui fonde un musée, c'est d'abord, avant tout, sa collection permanente. Donc, notre réflexion, elle a d'abord été sur faut-il continuer à s'inscrire dans cette espèce de course à l'échalote des grandes expositions ou faut-il voir les choses autrement ? On a préféré revenir à autre chose, c'est-à-dire se concentrer sur nos collections permanentes et on s'est donné aussi la liberté d'essayer des choses. Alors parfois ça marche avec des belles surprises comme l'exposition Godon qu'on pouvait penser un peu sacrilège et qui nous a fait venir des publics totalement différents au musée. Je vous dirais aussi que parfois ça n'a pas marché. On a essayé de travailler avec des associations sur un peintre local et ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est aussi ça, de pouvoir se tromper, de s'autoriser cette liberté de se tromper. Mais pour nous, le musée du XXIe siècle, c'est un musée qui doit devenir plus un tiers-lieu, un lieu ouvert où on va pouvoir justement pratiquer et ou découvrir une multiplicité de pratiques artistiques où on va pouvoir se sentir comme chez soi, et un musée qui prend peut-être le contre-pied de là où on l'attend. On vient de faire une exposition, là, qui est encore en cours, où ce sont les personnels du musée, par exemple, qui ont choisi les œuvres, et donc des choses totalement différentes. Voilà, on essaye de se réinventer. Les musées sont une vieille institution, et se réinventer, chercher de nouvelles façons de faire venir le public, mais surtout de partager ce qui fait ce qui construit notre identité, c'est-à-dire notre patrimoine artistique, en rappelant que ce patrimoine, il appartient à chaque citoyen. Et c'est, je pense que c'est ce qui est quand même essentiel, c'est que on oublie trop souvent que chaque citoyen français est propriétaire des œuvres qui sont dans les musées de France.
Alors, on peut dire que les Hauts-de-France, terres imprimées par les valeurs de labeur et d'excellence, sont une source d'inspiration et d'innovation pour les jeunes artistes aujourd'hui. Et quelle influence exercent les valeurs du territoire dans l'apprentissage des écoles, dans le processus des créations, donc des créateurs d'art et donc artistes de demain? Et une question un peu en forme de conclusion, existe-t-il un ADN créatif qui caractérise le territoire des Hauts-de-France?
Ah oui, non, je pense que la création, elle est partout, la création. Il y a ce qui va, je pense, favoriser la création, c'est notamment dans le Nord, c'est que le Nord est une terre ouverte, c'est une terre de passage, c'est une terre qui se situe au cœur de l'Europe et qui a une telle histoire, qui a vu de telles migrations, qui a vu de tels conflits, qu'on connaît la valeur à accorder à l'humain. Et c'est cette dimension d'humanité, cette dimension d'ouverture. C'est un territoire où on connaît la valeur des choses, où on va pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes, qui va permettre de constituer un terreau favorable pour les artistes. Donc, je pense pas qu'il y ait d'ADN véritablement au sens premier qui permette une création. Les artistes naissent partout. Mais il y a en tout cas un terreau favorable pour que on puisse ici permettre à des artistes d'éclore. Et l'éclosion, c'est aussi notre mission et c'est ce qu'on voit à travers cette action et à travers toutes les écoles et ces étudiants en beaux-arts qui vont pouvoir venir se confronter à Matisse et nous dire ce qu'ils en pensent.
Eh bien, Monsieur de Parpe, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur le 106,6. Et puis, eh bien, Radio Campus ne vous souhaite que d'une bonne réussite pour ce projet et un bon avenir au musée Matisse du Cateau-Cambrésis.
Merci.